France Culture.
Votre attention, s'il vous plaît.
Ce sont des croûtes.
Un jour, j'ai fait un escargot et on aurait vraiment dit un escargot. On dirait des serpents.
Ouais. Le problème de nos contemporains, c'est qu'aujourd'hui, les gens n'ont plus le goût.
Le goût du beau.
Est-ce que les arbres étaient beaux avant que Corot les ait peints? Non!
Hi, Dolly. Darling. I adore your work. I just adore your work. I adore.
Voilà. Je vous laisse avec l'art, c'est-à-dire l'artificiel, qui nous protège du retour au préhistorique.
France Culture, allons-y voir. Patrick Boucheron.
Bonjour à toutes, bonjour à tous. La France ? La France ? Oui, la France, il y a quelqu'un ici ? Mais oui, vous avez vu, on dirait bien. Et pas n'importe qui, nous sommes à Blois et nous enregistrons cette émission en public dans l'auditorium Samuel Paty de la bibliothèque Abbé Grégoire. Reconnaissez que ce sont là deux grands noms, beaux et nécessaires. Surtout lorsque nous nous rendons, comme c'est le cas de beaucoup de gens rassemblés aujourd'hui, au rendez-vous de l'histoire. Et pour avoir rendez-vous avec l'histoire, on ne peut se contenter de la réciter sage comme des images. Et d'ailleurs, les images ne sont pas sages. C'est ce que l'on va comprendre aujourd'hui, car ne nous en veuillez pas si l'on affuble la France de ce point d'interrogation. La France ? Victor Hugo, encore lui, voulait mettre un bonnet rouge à son dictionnaire. Nous autres, historiennes et historiens, couronnons la nation de ce que nous avons de plus précieux. Notre capacité d'étonnement, nos interrogations, nos inquiétudes, notre irrépressible envie de nous ménager des surprises. La France ? Oui, pourvu qu'on sache la dire dans son mouvement. Alors, suivons le mouvement de nos souvenirs. Si je vous dis « roman national » et que vous fermez les yeux, que voyez-vous ? Des phrases ? Non, non, des images, des vignettes, des scénettes, l'imagier de notre enfance. Le roman national est un livre d'images. Voilà ce dont nous allons parler aujourd'hui avec Margot Renard, Olivier Loub et Adrien Genoudet, bientôt rejoints par notre sociétaire du jour, Manuel Jarpy.
Louis XV acquit la Lorraine et la Corse à la France, mais il lui fit perdre ses plus belles colonies. Avant lui, la France était le premier pays du monde. Par sa faute, elle perdit beaucoup de sa puissance. Louis XV fut donc un mauvais roi. Lavis, Histoire de France, Cours élémentaire, Paris, 1913.
Bonjour Margot Renard.
Bonjour Patrick Boucheron.
Vous êtes historienne de l'art, actuellement responsable de l'administration de la valorisation de la recherche à l'École du Louvre, et vous avez publié en 2023, chez Maré Martin, un ouvrage tiré de votre thèse, qui va nous servir de guide aujourd'hui, son titre « Aux origines du roman national, la construction d'un mythe par les images de Vercingétorix aux sans-culottes, 1814-1848 ». Vous vous souvenez de la première image d'Histoire de France que vous avez vue ? C'était quoi ? Dans une BD, dans un livre d'histoire ? Qu'est-ce qui vous a frappé ?
Je pense qu'en effet, la bande dessinée et ouais. Astérix et Obélix en particulier.
Eh ben ça tombe bien, parce que comme on va parler de Vercingétorix, quelque chose me dit qu'on va parler de Astérix et Obélix. Olivier Loub, bonjour.
Bonjour, Patrick.
Vous êtes historien, vous enseignez en classe préparatoire l'histoire au lycée Saint-Sernin de Toulouse. Votre dernier livre est paru en 2016 chez Armand Collin, Cannes 1939, le festival qui n'a pas eu lieu, mais vous avez aussi beaucoup travaillé sur Jean Zay, réarmer la République, Jean Zay au Panthéon, essai d'histoire tonique chez Demopolis en 2015. Là encore, tout est dit dans le titre. Tout est dit de votre engagement citoyen en tant qu'historien des rapports entre patriotisme républicain et enseignement de l'histoire, l'école, l'identité, la nation. Ça, c'était un livre paru chez Belin en 2001. Ouais, oui, vous êtes férocement historien, en fait. Hein. Vous êtes à fond là-dessus.
Quoi. Oui, les historiens...
Vous dur comme fer.
Alors, oui, les historiens féroces font une histoire favorable à la vie en commun, je le crois, oui.
Et pour vous, réarmer avec une autre forme d'image républicaine, c'est pas impossible.
Oui, à condition de ne pas oublier que les armements précédents, le mot est assez affreux quand même, étaient autre chose que simplement des clichés.
Oui. Adrien Genoudet, bonjour.
Bonjour.
Vous êtes écrivain et cinéaste, et vos deux derniers livres, L'enfant de dos, publié en 2024 chez Sun Sun, dans la collection que vous dirigez, Fléchette, et Nancy Saïgon, superbe roman, paru aux éditions du Seuil cette année, affrontent directement la question des images. Les images, vous en êtes par ailleurs l'historien, ayant travaillé sur le fonds Albert Kahn, L'effervescence des images, paru en 2020, et ayant publié 5 ans avant un petit essai, Dessiner l'histoire, essai d'histoire visuelle. Vous dessinez, enfant ?
Ah non, c'est d'ailleurs, je commence par là. Je commence par là, ce récit. J'ai toujours eu du mal à dessiner, justement. Des images dans l'œil, mais après, pour essayer de les reproduire, ça a toujours été le problème. Alors, j'ai été un piètre dessinateur.
Nancy Saïgon, on va parler de Saïgon tout à l'heure, mais restons à Nancy. Alors vous, c'était quoi ? C'était la belle Lorraine ? C'était
Bien sûr. Enfin, c'est une autre forme. On peut dire que c'est Stanislas, hein, Stanislas Leszinski. Stanislas, ouais. qui est en pied sur la place Stanislas, et qui est en effet un porteur quand même d'imaginaire assez fort pour les petits Lorrains que nous étions, que j'étais.
Oui. Alors, Margot Renard, aux origines du roman national, l'image. Ça, c'est la thèse de votre thèse, elle est là, elle est tout entière dans le titre. Et le plus simple, c'est de partir de justement ce dont on se souvient enfant, Vercingétorix. Alors, quelle image vous voulez nous faire voir de Vercingétorix ? Peut-être la plus évidente ?
Alors, la plus évidente, c'est en fait un tableau qu'on a tous vu parce qu'il illustre encore les manuels scolaires aujourd'hui. Et il les illustre depuis au moins la Troisième République. Et c'est un tableau de Lionel Royer.
Ah, je l'ai, tenez,
voilà. Qui date de 1899. Je montre. Voilà. Et qui représente Vercingétorix qui rend les armes devant Jules César. On est là à l'issue de la bataille d'Alésia, à Alice Sainte-Reine. Et Vercingétorix a été défait par le proconsul Jules César. Sauf que dans ce tableau, Vercingétorix ne se rend pas, c'est-à-dire qu'il est à cheval, ce qui est une impolitesse, et il lance ses armes au pied de Jules César, qui d'ailleurs a une tête d'enfant boudeur. Ça lui déplaît extrêmement que Vercingétorix ne se rende pas et qu'il soit en fait dans une attitude de courage malheureux qui est vraiment celle... typique de la peinture d'histoire de cette époque-là, depuis la perte de l'Alsace et la Lorraine en 1871.
Oui, parce que c'est véritablement Napoléon III qui fait de Vercingétorix le héros national que l'on connaît, cette sorte de qui l'auréole de sa défaite. Mais vous le montrez très bien, puisque vous commencez avant, vous commencez notamment dans les années 1830. Vercingétorix, à ce moment-là, est ce qu'il était, hein, c'est-à-dire un obscur chef gaulois, et même peut-être pas tout à fait quelqu'un d'ailleurs. Disons que le souvenir ne s'est pas encore cristallisé sur lui. C'est d'abord Clovis qui est celui qu'on représente le plus communément aux origines du roman national au XIXe siècle.
Oui, tout à fait. Vercingétorix, au début du XIXe siècle, ça n'est pas encore ce héros national. Ça viendra plus tard. Vercingétorix, au début, c'est celui qui a perdu face à Jules César. Et il est assez peu représenté dans les livres d'histoire. Une des premières occurrences, c'est 1833. Et c'est en effet Clovis qui cristallise toute l'attention des historiens et des artistes, parce que Clovis, c'est le premier roi chrétien.
Alors, on va parler évidemment de cette imagerie, c'est-à-dire de cette mise en mouvement des images. Il ne suffit pas simplement d'en avoir une, il en faut des séries. Alors, évidemment, on est presque dans la bande dessinée. On va voir comment la bande dessinée s'empare de cette imagerie. Mais avant, je pense qu'il faut parler peut-être de la première bande dessinée de l'histoire de France, c'est-à-dire la galerie de l'histoire de France, parce que tout ça prend sens effectivement dans un lieu particulier.
Oui, alors la première grande galerie de l'histoire de France, c'est le musée de l'histoire de France de Versailles. Et c'est là que, pour la première fois, est mise en image le récit national, en fait, hein, le récit de l'histoire de France. Ce musée que vous pouvez encore voir à Versailles, hein, dans le château de Versailles, c'est un musée qui a été décidé par Louis-Philippe à partir de 1833 et qui a été inauguré en 1837. Et vous pouvez voir notamment une grande galerie avec toutes les grandes batailles de l'histoire de France qui forment comme ça une espèce de grand livre d'images idéal, hein, puisqu'on est toujours dans l'idéal de l'histoire de France.
Le grand livre d'images, Olivier Loub, avant les plus petits, ceux qui vont évidemment faire partager cette imagerie dans les écoles dont vous êtes l'historien.
Alors, le grand livre d'images voit apparaître Vercingétorix, d'ailleurs, après la défaite 70, parce que là, il y a une leçon. C'est l'homme de la défaite qu'on va pouvoir sublimer, qu'on va pouvoir dépasser. C'est à ce moment-là qu'il devient héros. Parce que les Gaulois, contrairement à l'image qu'on peut en avoir, sont pas du tout donnés en modèle aux enfants. Il y a une image dans le Petit Lavis de 1913, dont on entendait un extrait, le cours élémentaire, qui montre enfants gaulois qui se battent comme des sauvages. De fait, la France démarre pour Lavis en termes de civilisation à partir du moment où elle est romanisée. Oui. Ceux qui sont porteurs de civilisation, c'est les Romains, c'est pas les Gaulois, c'est des sauvages. Hein, et c'est la vision de César, et oui. tout simplement.
Et c'est pour ça que c'est à partir de Napoléon III, à partir du moment où on pense nécessaire de donner en exemple des défaites civilisatrices, que Vercingétorix se reprend du poil de la bête,
exactement,
c'est ça ?
Exactement, oui. Et ce cursus désormais victorieux, malgré la défaite, au contraire, grâce à la défaite qu'il va permettre de surmonter, c'est ça la figure de Vercingétorix. Et ces hommes de la défaite, que sont les Ronan, que sont les Lavis, se sont totalement imprégnés de cette idée-là.
Ouais. Et comme aujourd'hui, le parti de la défaite, c'est l'extrême droite, elle a à voir, évidemment, avec cette histoire. J'ai grand plaisir à vous faire écouter un extrait de CNews, le 8 juillet 2025.
Pardonnez-moi l'expression, c'est le bordel dans le gouvernement, mais aussi chez les Républicains. Non. Je n'y comprends rien. C'est-à-dire qu'il y a des Républicains au Sénat qui pensent l'inverse que ceux de l'Assemblée nationale. Donc est-ce qu'il y a une ligne claire chez les LR ?
Vous savez, nous sommes un parti gaulois.
Oui,
donc c'est normal que, comme tous les Gaulois,
il y ait des réfractaires.
Nous avons désormais notre chef. Nous avons notre bras, notre Vercingétorix.
Oui.
Et je pense que Bruno Retailleau s'est exprimé de manière très claire. D'ailleurs, il y a une consultation des adhérents Les Républicains qui tourne en ce moment, qui montre à une écrasante majorité le soutien de nos adhérents. Donc, que nous ayons en notre sein des gens qui ne soient pas d'accord, c'est la liberté. Je viens de vous dire qu'il fallait avoir un débat. Moi, je suis pour le débat.
Vous l'avez pas vu venir, ça, hein, Retailleau, nouveau Vercingétorix, Olivier Léon.
Je m'attendais assez peu à ce type d'extrait, mais effectivement, il est parlant.
Oui.
Il est extrêmement parlant, et même, il nous remplit d'images.
Oui, d'images. On est plein d'images. On le voit d'ailleurs dans ce studio, tout le monde a les yeux qui pétillent. Et seule évocation de ce nom propre. Margot Renard, donc, depuis quand, au fond, l'imagerie dont vous êtes l'historienne nous présente comme des irréductibles gaulois ?
Elle nous présente comme des irréductibles gaulois à partir des années 1850 et justement Napoléon III. Et c'est à ce moment-là que dans le discours des historiens et dans le discours des images, on devient ce peuple féroce, païen, qui reste debout dans la défaite, braillard, paillard, mais malgré tout courageux. Ça,
ouais.
C'est vraiment ce discours qui se cristallise à ce moment-là.
Comme historien des images, Adrien Genoulet, mais aussi comme romancier, on va parler tout à l'heure de Nancy Saïgon, qui évoque la guerre d'Indochine. Vous vous confrontez depuis longtemps aussi à ces images qui représentent un certain art français de perdre la guerre.
Oui, complètement. Mais parce que, en fait, souvent, la plupart du temps, quand je suis face à des fonds visuels aussi, je me pose souvent la question de ce qu'elle raconte de nous de biais. Enfin, souvent aussi dans le hors-champ. Et c'est ça qui est souvent très intéressant quand on est confronté à toutes les images, disons, d'un grand récit national, français, etc. On est souvent face aux images les plus évidentes de victoire qui viennent fêter notre France qui vint, etc. Et dans l'autre sens, bien sûr, on est toujours en perte d'images de défaite. Ou en tout cas, on a beaucoup de mal, en tout cas, à se confronter aux réelles images de défaite. Donc moi, très souvent, je me suis mis à m'y confronter, notamment, donc, par exemple, dans mon roman précédent, Le Chant des Cris, qui était d'aller voir de l'autre côté, notamment des images de la Libération, par exemple.
Oui, et aller chercher le hors-champ. Alors là, évidemment, le propre de la peinture d'histoire, du point de vue visuel, au fond, c'est qu'il n'y a pas de hors-champ. C'est que tout est dit, tout doit être dans le cadre, rien n'est laissé, au fond, à l'implicite de l'interprétation, Margot Renard.
Alors oui, c'est la règle. Il y a deux, principalement deux peintres d'histoire qui vraiment se sont ont travaillé sur ce hors-champ, Paul Delaroche et Jean-Léon Gérôme, chacun d'une génération différente, qui ont vraiment travaillé cette à côté de l'événement principal et de l'apex de l'événement. Mais sinon, la peinture d'histoire, en effet, doit tout dire et doit cristalliser le moment le plus dramatique.
Sauf que ce moment dramatique, si on revient à Lionel Royer et à ce moment qui est, il faut le dire, totalement mythologique, il n'y a pas de source qui indique que Vercingétorix ait été à Rome amené en triomphe à César, eh bien, cette postérité, vous en avez fait déjà, vous y avez fait allusion, Margot Renard, c'est évidemment dans la bande dessinée. Écoutez, c'était le Tour des Gaules, France Inter, en 1966.
Nous sommes en 50 avant Jésus-Christ. Les légions romaines, sous la conduite de César, ont déferlé sur la Gaule. Après une longue lutte, les vaillants Gaulois ont été contraints de s'avouer vaincus. Le grand Vercingétorix lui-même dépose les armes aux pieds de César.
Oui !
Ou plus exactement, sur les pieds de César.
Ah, c'est drôle, ah oui, ah, c'est drôle. Si c'est ça la plaisanterie gauloise...
Ouais, si c'est ça la plaisanterie gauloise, franchement, Margot Renard, c'est-à-dire que là, on le sait, on s'en souvient, on ne peut plus ne pas le voir. Et même quand on voit ces images pompeuses, on voit d'une certaine manière, déjà en transparence, la subversion par Goscinny, c'est-à-dire ces armes qui tombent non pas aux pieds, mais sur les pieds de César. Plaisanterie gauloise.
Tout à fait. Et Goscinny, justement, rit beaucoup de ce récit national qui s'est déployé depuis le 19e siècle.
Alors, vous avez travaillé sur la bande dessinée. Vous aussi, d'ailleurs, Adrien Genoudet, vous avez été historien de la bande dessinée. Qu'est-ce que ça vous inspire, ce passage, en somme, du hors-champ à la subversion?
Bah, déjà, ce qui m'inspire beaucoup quand j'ai commencé à travailler là-dessus, c'était justement, vous avez commencé par dire qu'on a, si on ferme les yeux, on a déjà ce roman national un petit peu dans la tête, on a ces images dans la tête. Et c'est quand même très surprenant, en fait, si on y réfléchit, d'avoir déjà ces contours visuels dans la tête. On a entendu là cet enregistrement. On a l'image dans la tête. On a l'image, bien sûr, de Goscinny, mais on a aussi toute la mise en scène de ce cheval, de Vercingétorix, de César, etc. Tous ces contours-là, ce qui est intéressant, c'est qu'ils sont mémorisés. On les a en tête. On a, d'une certaine façon, une mémoire visuelle qui dessine tous ces contours, toutes ces images qui sont ce catalogue visuel du roman national. Et donc, c'est très intéressant d'essayer de voir, justement, comment de Royer ou d'autres images, mais comment toutes ces images, dans un long défilement, elles s'imposent comme des évidences, des clichés, des images qu'on a justement dans la rétine.
Il y a une revue numérique qui s'appelle Entre-temps, qu'on a, allez, on va le dire, parce que comme on est à Blois, un peu en famille, on peut dire les choses, qu'on a fondées ensemble en 2018, Adrien Genoudet, et puis cette année, on est très fiers parce que un livre qui s'appelle Entre-temps, l'histoire publique en revue est publié par les éditions du Collège de France pour, comme son nom l'indique, passer en revue ce que cette publication numérique depuis 7 ans a produit sur justement le rapport entre histoire et image. Entre-temps, l'histoire publique en revue, sous la direction de moi-même et d'Aurélien Péter. Vous y avez contribué l'un et l'autre, en particulier Margot Renard, en interrogeant Jean Dittard, qui est ici d'ailleurs à Blois pour une autre BD historique avec Romain Bertrand, et qui lui a un rapport très très particulier aussi, à la fois à l'archive historique et à ce qu'elle ne montre pas, et comment effectivement il peut faire parler son implicite ou son hors-champ.
Oui, Jean Dittard, c'est vraiment un auteur de bande dessinée qui travaille à la fois sur l'histoire et sur l'image elle-même et sur l'histoire de l'art et sur ce que font les images, les effets qu'elles ont et ce que nous faisons aussi aux images. Et donc, il travaille à la fois sur l'archive et sur toutes ces déflagrations, en quelque sorte, et tous ces usages. Donc, c'est vraiment un auteur qui produit des récits qui ont une profondeur historique très, très grande.
Notamment son album sur Dreyfus, où il y a aussi une image qui est une image forte de notre mémoire nationale, qui est effectivement la dégradation de Dreyfus, et dont il fait un traitement particulier. Vous le montrez bien, d'ailleurs, dans la revue.
Oui, c'est la fameuse image qu'on a tous aussi dans la rétine de Meyer, qui est parue dans un petit journal et qui montre la dégradation de Dreyfus. Et c'est une image à charge hein, qui est contre Dreyfus, qui le considère comme le traître. Et Jean Dittard, en fait, en montre le hors-champ. Il la montre d'abord découpée en deux, en nous obligeant à nous remémorer cette image qu'on a tous vue, et il la montre en entier plus tard. Donc il y a tout un travail de reconstruction et de cacher, montrer autour de cette image qui est aussi très intéressant.
Et il la montre depuis la foule qui la regarde, donc, et qui est
la
en arrière-plan.
La foule qui n'a pas le droit d'accéder à l'événement lui-même de la dégradation et qui donc montait dans les arbres pour regarder cette scène de loin. Et il montre justement ce hors-champ, cet à-côté, ses regards extérieurs et pas seulement celui de Dreyfus.
Olivier Loube.
Oui, ben ça, c'est des représentations qui permettent de décaler, de décentrer. Au fond, c'est ce que l'image peut nous faire cette fois-ci. Il y a ce qu'on veut en faire, mais c'est qu'elle peut nous faire. Et il y a dans les manuels scolaires aussi, on peut trouver ce type de choix qui sont des formes d'extrait ou de mise en scène. Et par exemple, au début des livres de la vie, c'est-à-dire les grands chapitres, pour le dire comme ça, il y avait des scènes enfantines hein, pour les petits. Et ces scènes enfantines, c'était une mise en scène qui impliquait les enfants dans une image historique.
Eh oui, on va en parler parce que, justement, au fond, toute notre question aussi aujourd'hui, allons-y voir, c'est d'essayer de comprendre comment une vision critique de l'histoire peut, mais jusqu'à quel point, d'une certaine manière, aller à l'encontre de nos souvenirs d'enfance. On va terminer sur Vercingétorix. J'avais envie de vous faire entendre quelqu'un d'assez extraordinaire, qui est Christian Goudineau, qui enseignait au Collège de France, qui a fait Vercingétorix, le dossier Vercingétorix, un livre très décapant. Et il nous expliquait en 2010 que, malgré sa science, au fond, il ne pouvait pas se défaire de ses images d'enfance, et que même s'il savait que c'était pas vrai, ben, c'était quand même ces images qui revenaient. Écoutez.
Alors moi, ce que je préfère, c'est la monnaie. Pourquoi ? Eh bien, parce qu'il y a une polémique sur cette monnaie. Plus exactement, les numismates pensent que, contrairement à ce qui a été dit pendant longtemps, il ne s'agit pas du tout d'un portrait de Vercingétorix, même s'il y a le mot Vercingétorix, il s'agit d'une image du dieu Apollon, tel qu'on le voyait sur les pièces de l'époque d'Alexandre le Grand et juste après, les statères d'or qui justement ont été imités par certains peuples gaulois. Et que ce serait donc la dérivation de l'image d'Apollon, mais vous voyez à quel point cette image-là a été importante aussi dans la représentation picturale de Vercingétorix. Alors, bon, c'est sans doute pas lui. Ça a peut-être une petite chance que ça soit lui, très faible. Mais moi, je ne peux pas m'empêcher de garder au fond du cœur ce qu'on m'a appris quand j'étais tout petit. Je garderai toujours l'image du jeune chef gaulois, hein, beau comme un dieu, héroïque, et qui a perdu. Je me rappelle des signes de piste où on voyait les légions gauloises contre les Romains. Alors, bon, je sais bien que c'est pas vrai. Je sais bien que cette monnaie, elle a toute chance de représenter Apollon. Mais on n'en est pas sûr à 100%. Et il faut toujours qu'il y ait une petite part de mystère dans l'histoire. Sinon, ça vaut pas la peine d'en faire.
France Culture.
Je vous présente
Jules César. Ça sent la victoire.
Un parfum en particulier ?
Ça sent le laurier.
Coucou Jules !
Allons-y voir. Patrick Boucheron.
Oui, cette part d'enfance, elle est irréductible. On a nos souvenirs d'enfance, mais on a parfois aussi des souvenirs reconstitués, des faux souvenirs. Il y a des gens qui parlent des petits lavis illustrés, qui s'en font une idée qui n'est pas la bonne, parce que justement, c'est autre chose, les petits lavis illustrés. Est-ce que vous avez beaucoup travaillé là-dessus, beaucoup écrit, dans le magazine L'Histoire, notamment, mais pas seulement, Olivier Loube, est-ce que vous pouvez nous la raconter, cette histoire?
Alors, les manuels Lavis sont, au départ, non pas un roman, mais plutôt, par rapport à la science de son temps, un récit assez vrai. Assez, j'emploie le assez, parce que il y a des intentions pédagogiques et des intentions politiques, dont Lavis d'ailleurs ne fait pas mystère, par ailleurs, mais il n'empêche que ces Gaulois, ce sont ceux de Camille Julian. Donc, c'est-à-dire que par rapport à la science de son temps.
Rappelez-nous, donc, en fait, l'ensemble. Réédité pendant très longtemps.
La production des manuels pour l'enseignement primaire qui prend le nom d'Ernest Lavis, qui rédige le premier en 1876 et qui va durer presque 100 ans, même s'il est mort en 1922, la collection Lavis va perdurer, et qui concerne tous les âges d'enseignement aussi. Ce qui fait que ça, c'est un archipel, hein, les petits Lavis. Il y a j'avais compté plus de 6000 pages neuves, hein, qui sont rédigées pour ces manuels. Et ça a donné un corps assez vivant, et surtout quelque chose qui, presque dès le début, et c'est Charles Péguy qui en parle le mieux, on va le voir, est le manuel de référence. C'est-à-dire que c'est pas forcément le plus vendu, mais il est très bien vendu, mais c'est celui qui va être l'objet de toutes les critiques, très tôt, très très tôt, les socialistes bien sûr, à boulet rouge, mais aussi du côté de la vie de Péguy. Regardez, écoutez ce qu'écrit Charles Péguy, parce que moi je trouve que c'est très intéressant pour notre émission. Parmi ses livres, un des plus intéressants était La petite histoire de France de Monsieur Lavis, où il y avait des images, et c'est la première chose qu'il cite, hein, où il y avait des images, des récits et un texte. Je pris là de la France et de son histoire une image commode que tout mon travail a consisté depuis à essayer de remplacer par l'incommode image exacte. Comment mieux décrire quel est notre travail, hein, la plupart du temps ?
L'incommode image exacte. Avec Goudineau, d'une certaine manière, cherchait, mais il cédait aussi à l'image commode.
Ah oui, parce qu'on fait respirer ensemble ces images en nous. On part très bien des images dont on sait qu'elles sont des clichés, et on va étudier ces clichés. Mais on sait bien que les clichés produisent la réalité aussi.
Et une des manières, d'ailleurs, de montrer ça pour Lavis, c'était de ne figurer non pas les héros de l'histoire de France, mais des enfants qui jouaient à l'être. Des enfants qui jouaient à être des Gaulois et des Romains, qui jouaient à être Jeanne d'Arc.
Parce qu'il a parfaitement compris que s'il y a roman, il s'agit, lorsqu'on s'adresse aux enfants, d'un roman d'initiation. Et c'est un genre particulier que le roman d'initiation. Et là, dans ce cas-là, il fait venir dans des scènes qui sont des entêtes, il appelle ça des entêtes, des enfants. Et ces enfants, soit ce sont des enfants dans le passé, donc alors, ce que je vous disais des Gaulois, c'est enfants gaulois qui jouent comme des petits sauvages, soit ce sont des enfants qui jouent à être, par exemple, Jeanne d'Arc, hein, dans le récit qui concerne la période finale du Moyen-Âge. Mais ça peut être aussi, ils jouent à Napoléon, à Austerlitz, etc.
Donc, et puis là, j'ai autre chose, modèle de préparation de devoir. On retrouve Vercingétorix, il se livre à César. Tenez, je vous le donne. Qu'est-ce que vous voyez là-dedans ?
Là, c'est l'excellente question, ça. Qu'est-ce que vous voyez ? Parce que c'est un modèle de préparation de devoir qui est une composition française. On peut penser à Mona Ouzouf, mais qui est une composition française à partir de scènes, c'est-à-dire à partir d'images. Il y avait une façon de faire travailler les écoliers pour rédiger des textes à partir d'images. Cette image, c'est la classiquissime image de Vercingétorix se rendant à César. Et puis, au fond, vous avez des soldats. C'est dessiné de façon tellement petite qu'on ne voit pas leurs yeux. Or, une des questions qui est posée, c'est quel sentiment, hein, autour de ces personnages que voyez-vous, où se tiennent les soldats, quel sentiment leur attitude indique-t-elle ? Et il y a le corrigé. Et dans le corrigé, il y a, on voit à travers les yeux, non dessinés, hein, des soldats passer à la fois la fierté de la victoire et la pitié pour le grand vaincu. Alors là, on peut dire avec Daniel Arras qu'on n'y voit rien, très clairement, mais c'est typiquement une scène pédagogique. Hein, c'est une façon de voir l'image qui est pédagogique.
Et oui, parce qu'une image, elle ne se réduit pas seulement à l'intention de celui ou celle qui la produit ou qui la commande, mais évidemment, à la réception, il y a très belle lettre que vous citez dans votre livre aux origines du roman national Margot Renard, c'est celle d'Augustin Thierry à un de ses dessinateurs, Harry Schaeffer, qui en fait ne dessinera pas les récits mérovingiens, mais peu importe. Et il donne des indications très précises. Il faudrait donner à Frédégonde la beauté de la femme germanique dans tout son développement et à Brunehild une beauté plus fine et en quelque sorte méridionale, à Galswind la grâce sans beauté, à Sigebert la beauté virile et la franchise héroïque du Germain, à Mérovigue, le type de l'étudiant allemand, rêveur, étourdi et exalté. Bon courage, hein, pour essayer de dessiner. Adrien Genoudet, il a arrêté dès l'enfance, d'ailleurs. Il n'a même pas essayé. On sait que, d'ailleurs comment c'était reçu, toutes ces images.
On a peu de traces de réception, simplement des récits d'historiens peut-être qui disent que eux-mêmes ont lu, ont vu des images et que ça a pu les inspirer. Bon, Jules Michelet, bien entendu, grand classique, lui-même est allé au musée des monuments français lorsqu'il était encore ouvert et s'en est inspiré. Il a des visions, Michelet, il vit l'histoire dans son corps, donc on peut avoir des indices de cette réception-là.
Et donc, puisqu'on parle de roman national, puisqu'on comprend que ce roman national est aussi un livre d'images, nous devons toutes et tous essayer de saisir à la fois comment on peut le critiquer, comment on peut le déconstruire, mais comment, le déconstruisant, on risque aussi de produire d'autres images qui, elles-mêmes, se monumentalisant, frappent d'évidence, et dès que l'évidence est toujours aveugle. Écoutez, écoutez bien, parce que je trouve ça absolument passionnant, c'était Pierre Nora, au micro de notre ami Emmanuel Laurentin à la Fabrique de l'Histoire en 2006. Et écoutez bien comment il parlait des lieux de mémoire.
Il était clair que Lavis était à la fois l'auteur du petit manuel Lavis élémentaire qui a eu, pas un monopole, mais une très large influence sur la psychologie nationale et dans les classes, et qu'en même temps, il a dirigé une histoire de France en 27 volumes, qui est un peu la standard de l'histoire de France et qui, faisant pour tout ce qui venait d'être fait depuis 10 ans pour la connaissance de la France, ce que Braudel avait fait pour l'identité de la France, a synthétisé en un récit cohérent qui est peut-être devenu la matrice de tous les manuels ensuite. Donc ça a été un modèle. Et moi, je me rends compte que ce que j'ai voulu faire, c'est déconstruire ce modèle. C'est-à-dire que tout son effort à Lavis avait été d'unir très étroitement, au fond, le régime républicain nouveau pour l'enraciner dans la nation française, en faire comme un synonyme, et montrer que la France, la nation et la République ne faisaient qu'un. Et donc, il a fait un énorme effort pour unifier l'histoire de la France et en donner un récit unitaire et cohérent, orienté dans un esprit républicain. Et au fond, ce que j'ai tenté de faire, c'est de déconstruire ça.
Oui, Pierre Nora, déconstructeur du roman national. Effectivement, on l'a oublié, peut-être lui-même l'avait-il oublié, parce que, encore une fois, c'est ce qu'on se disait, les lieux de mémoire se construisent contre Lavis, l'instituteur national, comme il l'a magnifiquement écrit, en séparant cette synonymie France, nation, République, qui font d'ailleurs les trois volumes des lieux de mémoire.
Il commence très tôt, puisque le tout premier article, c'est 1962, sur justement le prototype de ce qui donnera la vice instituteur national. Il le donne dès 1962. C'est une génération de la guerre d'Algérie aussi, très fortement pour ce qui est de Pierre Nora, non seulement la Seconde Guerre mondiale, mais la guerre d'Algérie. Et le besoin de déconstruire les récits se fait d'autant plus fort qu'on les voit se défaire.
Oui.
Sous les yeux. Cela, c'est une conjonction évidemment remarquable.
Oui, mais non seulement, effectivement, comme vous le dites, Pierre Nora est l'historien de Lavis, l'instituteur national, mais aussi le promoteur des lieux de mémoire, qui sépare ce que Lavis avait rassemblé, qui brise la synonymie France-Nation-République, et qui finit aussi par s'imposer d'évidence comme un monument de l'histoire nationale.
C'est-à-dire le nouveau modèle de récit.
Un nouveau modèle.
Le nouveau modèle de récit, y compris du récit du commun. Parce que c'est ça qui est intéressant chez Lavis comme chez Nora, ou comme nous lorsqu'on essaie d'écrire une histoire un peu du collectif. C'est que, bien entendu, on est porteur d'une nouvelle définition, dans le meilleur des cas, de ce qu'est le commun. Et il se trouve, malgré tout, c'est qu'à chaque époque, on peut peut-être imaginer que ce soit ça le destin de ces récits qui sont des récits du commun. C'est qu'il démarre souvent, quand il s'agit de Lavis ou de Nora, par être très en phase avec la science de leur temps. C'est-à-dire qu'au début, les petits Lavis sont plutôt des récits vrais, et qu'au fur et à mesure on les réimprime sans trop les changer, ils deviennent des romans de moins en moins vrais. Alors voilà, du récit au roman, ça pourrait être un des destins de ces livres.
Margot Renard.
Oui, cette idée d'un récit par les images est en effet une manière en fait de produire du commun, comme le dit Olivier Loup, c'est vraiment En fait, produire de l'imaginaire collectif, et je parlais tout à l'heure du musée de l'histoire de France de Versailles, c'est cette idée-là, à travers ces héros, ces grands hommes, parce qu'il y a peu de femmes, ces grands hommes de l'histoire de France, on fait le récit de la nation en images, et donc chacun peut se retrouver dans ces grands hommes, et à l'exemple de ces grands hommes, devenir soi-même un grand homme et donc s'illustrer pour la France. C'est toute cette mécanique-là.
Du récit au roman, on va y venir avec Adrien Genoudet, mais en attendant, on comprend que tout ça fait, faute de mieux, une brève et approximative histoire de France, comme le chantait Benabar en 2010.
Big Bang, dinosaure préhistoire, un Gaulois de légende émerge du brouillard, c'est pas fini. Les peuples désunis, des rois fainéants, les tout premiers cris d'un pays enfant, c'est pas fini. Après l'âge de pierre, du bronze et du fer, peut-être nous vivrons un jour l'âge de raison. Elle est pas finie l'histoire. On n'a pas fini d'y croire à l'avenir. Il est en marche, il faut s'y faire. En avant, pas en arrière, l'avenir. Et au bout du bout, y a nous, ici, maintenant. Litanie des dynasties, jusqu'à en perdre la tête. Le drapeau s'allie, pas que dans les défaites, c'est pas fini. Château de la Loire, Saint-Barthélemy, rebâtir avec les arts ce qu'ignorance se détruit. Elle n'est pas finie l'histoire, on n'a pas fini d'y croire à l'avenir. Il est en marche, il faut s'y faire, en avant, pas en arrière.
Vous ici, écoutez bien France Culture, allons-y voir une émission enregistrée en public au rendez-vous de l'histoire de Blois avec Margot Renard, Olivier Loub et Adrien Genoudet. On se pose la question de savoir si le roman national ne serait pas d'abord et avant tout un livre d'images. Et vous nous l'avez dit, Adrien Genoudet, ce sont d'abord ces images que vous avez regardées pour, d'abord comme historien des images, et puis tous vos romans, mais je dirais aussi tous vos films, car vous êtes à la fois écrivain et cinéaste, partent toujours d'une image. Enfin, est-ce qu'il y a un moment, quelque chose que vous ayez écrit qui ne trouvait pas son origine dans une photographie, dans une...
Pour le moment, je crois pas. Ouais. Oui, pour le moment, je crois pas. Même, en tout cas, ce qui est intéressant aussi, je me rends compte en vous écoutant, c'est pas simplement qu'une question d'image, c'est aussi beaucoup une question de ce qu'elles nous disent. C'est-à-dire la façon dont on a une petite musique verbale, une petite musique aussi discursive, des phrases, des mots, des choses qui sont accrochées, en fait, à ces images. D'ailleurs, ça m'a fait, avant de faire l'émission, j'ai rouvert un Lavis, moi, personnellement, justement, que j'ai à la maison, que j'ai reçu en héritage. Et je me suis fait le petit jeu très simple de le regarder que par les images. Et je me suis bien rendu compte assez rapidement que plus d'une image sur deux me disait rien.
Oui.
C'est-à-dire que si j'ai pas le discours, s'il n'y a pas le texte qui est accolé, ces images ne me disent rien justement en termes de récit historique ou en tout cas, j'ai même pas de conviction intime de choses qui me rapprochent de ces images. Voilà.
Qu'avons-nous reçu en héritage ? Au fond, c'est ça aussi ce qui vous anime et vous inquiète dans votre écriture, Adrien Genoudet. Notre ami Sylvain Venner, un historien dans le Libé des historiens, a fait un bel article hier sur votre nouveau roman Nancy Saïgon. Ça part de là aussi, ça part de cette scène historienne. Il y a une boîte, on l'ouvre, il y a des images, on les regarde, oui, et on se rend compte qu'elles ne nous disent pas tout, qu'il y a certaines manquent.
Oui, complètement. C'est-à-dire que j'ai reçu justement en héritage une grande partie des archives de mon grand-père, et c'est vrai que ça fait un long moment que je tourne autour des lettres. Alors là, ce sont les lettres qui se sont envoyées en Indochine, mais en effet, il y a tout un petit carnet d'images complètement anonymisée, c'est-à-dire que la plupart des personnes qui sont représentées pendant la guerre d'Indochine, je sais que c'est en 1949, mais n'ont pas d'identité, je ne sais absolument pas ce qu'elles représentent. La seule chose que je sais, c'est que bien sûr, elles sont en lien, possiblement, avec ce fonds de correspondance, ce fonds de lettres. Mais plus je les regardais, plus j'étais en confrontation avec les archives, la correspondance et aussi évidemment ces images, plus je comprenais qu'elles racontaient, sans doute, en tout cas qu'elles donnaient à voir un à côté de cette guerre d'Indochine qui, déjà de base, est quand même un récit assez sans images et en histoire, avec une histoire quand même plutôt oubliée.
Vous l'avez déjà fait une fois, si j'ose dire. C'est l'autre livre qui le précède et d'une certaine manière le précipite. L'enfant de dos, à partir d'un cliché du fond Albert Kahn, dont vous êtes l'historien dans ce petit livre, hein, L'enfant vu de dos, oui. Dans la collection Fléchette.
Oui, c'était, là, pour le coup, c'était véritablement de partir d'une image, complètement. C'est une image d'un enfant photographié de dos à Hanoï en 1915, une autochrome, donc c'est une photographie couleur, donc de ce fond Albert Kahn. Et c'est vrai que là, il y avait surtout un problème, disons, en effet de légende, parce que la légende nous disait quelque chose de cet enfant photographié en 1915, mais aussi, évidemment, elle oubliait de le nommer et de nous dire qui il était. C'est un enfant absolument anonyme de cette Indochine de 1915. Et puis, surtout, ce qui est très surprenant avec cette photographie, c'est qu'elle sort des 72 000 du fonds Albert Kahn, enfin, je l'ai extraite des 72 000 du fonds Albert Kahn, et elle est extrêmement rare dans sa violence, justement, parce que le fonds Albert Kahn, c'est un beau livre d'images, évidemment, de cette France et coloniale, mais pas que, du monde.
Qui est en train de disparaître.
Qui est en train de disparaître.
L'inventaire du monde qui est au bord de sombrer.
Oui, tout à fait. C'est d'ailleurs l'idée d'Albert Kahn, hein, à ce moment-là, dès le début de 1908-1912, il décide de photographier le monde en photographie couleur pour et avoir des archives de ce monde qui, semble-t-il, selon lui, disparaît, est en train de disparaître.
Donc, dans vos deux romans qui sont parus au Seuil, Le Chant des Cris et Nancy Saïgon, et qui forment une suite, on va dire, ou une fuite,
oui, quelque
plutôt,
part, ouais,
plutôt c'est le roman donne l'histoire de France, et c'est aussi un roman familial.
Oui.
C'est aussi un album de famille. Et peut-être, j'y reviens, la clé biographique, si je peux me permettre, se trouve dans le texte qui clôt ce livre dont je parlais tout à l'heure, Entre-temps, l'histoire publique en revue, où vous vous souvenez d'un album de famille, d'un film de famille, avec votre grand-père qui passe, et vous vous dites, il y a un loup.
Oui. Oui, oui. Il y a un loup. C'est un loup, d'ailleurs. Mais il y a quelque chose de très étonnant, parce que de toute façon, quoi qu'on dise, il ne faut pas faire semblant de croire que nos films de famille ou nos albums de famille ne répondent pas à la même logique que le système d'écriture visuelle du roman national. C'est la même chose. C'est à la fois des images que l'on range, des images que l'on trie et des images qu'on additionne à un discours. Donc les discours fuitent. Il y a des choses qu'on ne sait plus, il y a des secrets qui s'installent. Et cette image, donc, qui est en effet un film HI8, vous savez, ces bonnes images, ces cassettes qu'on avait, donc moi c'était les années 90, début des années 90, très saturées, avec des zooms de partout. On avait découvert le zoom à la main, à ce moment-là, on zoomait sur tout. Cette image-là, en effet, cet homme, mon grand-père, apparaît à l'image et il tient une sorte de coupe-papier. Et dans ce coupe-papier, le geste même de son coupe-papier m'a fait ouvrir justement un geste de montage. Il fallait aller voir tout ce qui n'avait pas été dit de sa vie, qui est en fait adossé à l'histoire nationale. Oui. C'est l'Algérie, c'est l'Indochine, c'est la résistance française.
Oui, parce qu'on disait comme ça, le livre d'images de notre histoire recèle notre part d'enfance. On s'en attendrissait, mais il y a aussi des enfances saccagées. Et la part d'enfance, c'est pas toujours la part la plus joyeuse. D'où la nécessité de faire parler les images. Alors, vous nous avez amené un son qui est extrait de la RTS en 1984. C'est une machine à faire parler les images. Alors ça nous intéresse comme historienne et historien. C'est une invention belge, hein, si j'ai bien compris.
Suisse. La RTS, c'est la
RTS. Oui, mais d'accord. Bon, enfin, en tout cas, on va l'écouter. Ça fait très envie, son invention, là, sa machine.
Je vous présente le prototype que j'ai réalisé à mes moments perdus pendant à peu près une période de 6 mois. Je vais vous faire une démonstration d'enregistrement de la photo qui parle. Je place la photo dans l'appareil. C'est à la tête de rang. C'est la première fois que je touche un delta. Et d'après la gueule que j'ai, je n'ai vraiment pas l'air rassuré. Alors là, ce commentaire est enregistré là derrière. Et maintenant, je vais vous le lire. Hein, alors, dans 10 ans, quand je reprends cette photo, l'enregistrement est là derrière.
C'est la première fois que je touche un delta. Et d'après la dose que j'ai, je n'ai vraiment pas très rassuré.
Voilà, l'enregistrement est fait. Mon but est d'arriver à faire un tout petit appareil qu'on peut mettre dans sa poche, qui permet d'enregistrer le son directement pendant les prises de vue, sans être gêné, de passer ce son directement sur la photographie, de le lire et tout, et éventuellement de le combiner encore avec un Walkman, pourquoi pas, et tout. Donc, ça m'a permis de voir qu'on pouvait y arriver sans problème. Bon, la qualité du son n'est encore pas parfaite, mais le principe est vraiment au point.
À Bruxelles, à Eureka 83, voici le store des inventeurs suisses.
Bon, vous n'êtes pas adversaire du bizarre.
Non, mais il faut voir l'image.
Qu'est-ce que vous cherchez à nous dire avec ce son?
Ah, justement, non, je voulais partager parce que je trouve que, bon, déjà, c'est une invention qui n'a absolument pas marché.
Ça nous a pas totalement échappé. Ouais.
Elle a été commercialisée, mais elle n'a pas fonctionné, je crois. Il y a d'ailleurs une autre vidéo où il explique combien ça n'a pas marché. On est en 84, je crois. Non, ce qui est très intéressant, c'est le support. C'est-à-dire que c'est pour ça qu'on voit aussi l'image. Il y a cette bande. Il a vraiment ajouté une bande sonore sur les photographies classiques que l'on a. Non, ça en dit long justement sur ce que je disais juste avant, sur cette façon dont il est quasiment impossible, je crois, de ne pas s'intéresser aux images si on ne s'intéresse pas aux mots pour les dire, pour les décrire. Parce que si cette image-là dont on voit dans la vidéo, elle se retrouve sur un trottoir un jour de brocante, il est juste évidemment incapable, impossible de savoir ce qu'il en avait à en dire ou ce que ces images ont à nous dire. Et que ce soit dans l'écriture romanesque,
c'était un rêve d'historien en fait.
Quelque part, c'est un peu ça. C'est-à-dire que si les archives pouvaient à leur tour visuelles nous dire ce qu'elles ont à nous dire justement, mais en fait non, bien sûr, vu que elles sont des ventriloques les images. C'est nous qui les faisons parler constamment.
Mathieu Pot-Bonneville, qui est directeur du département culture et création du Centre Beaubourg, ben même quand on est à Blois, il nous envoie des cartes postales.
Vous allez écrire un livre.
Un livre? Mais je ne pourrai pas. J'ai déjà du mal à écrire une carte postale.
Cher Patrick, une réponse juste, un bon point, 10 bons points, une image. C'était dans mon enfance la comptabilité éducative encore pratiquée par des maîtresses d'école de la toute petite ville où j'ai grandi. À la campagne, le temps s'attarde et perdurait ainsi à l'école publique le lointain souvenir d'un système de récompenses dont, dès 1715, le catéchisme du diocèse de Lyon avait formalisé le cadre en distinguant bons points et méchants points. Cette gratification iconographique se compliquait d'ailleurs, puisque au taux de change initial, 10 bons points, une image, s'ajoutait la possibilité de convertir 10 images en une grande image. Curieuse inversion de la hiérarchie des valeurs scolaires, pourtant vouée à la supériorité des mots et de l'écrit. Pour récompense de nos efforts en lecture ou en orthographe, il nous était permis de satisfaire notre désir de voir et d'avoir, d'amasser jalousement des scénettes de carton que nous pourrions ensuite contempler à loisir en écartant un peu les lèvres d'une trousse ombreuse sur laquelle loucheraient nos camarades de classe. Si t'es sage, t'auras une image. C'est tout de même une étrange transaction qui noue le respect de la discipline à l'assouvissement d'une pulsion scopique, l'acceptation d'un ordre à la voracité du regard. Cela me fait me rappeler qu'en 1978, au détour d'un texte consacré à l'écrivain Eugène Sue, Michel Foucault interrogeait avec malice ce que les images scolaires ont de fort peu sage, et il était question d'histoire de France. Écoutez ce qu'il écrivait. « Je rêve d'un livre à faire. Il s'appellerait « Les plaisirs de l'histoire ». Il ne serait fait que de morceaux choisis, quelle belle expression, de reproductions de tableaux, de gravures, d'extraits d'ouvrages scolaires. Et chaque chapitre serait consacré à l'une de ces scènes que, depuis le XIXe siècle, on n'a pas cessé d'imprimer dans la tête des enfants et des adultes, Vercingétorix, jeune guerrier à moitié nu, indomptable et vaincu, venant offrir sa personne au milieu des légionnaires cuirassés. Blandine frémissante au milieu de ses lions. Le galop des Huns sur fond d'incendie parmi des femmes dépoitraillées et implorantes. Brunehaut à la croupe de l'étalon, etc. Il ne serait pas difficile de montrer quels éléments érotiques assez simples et très répétitifs y sont mis en jeu. Rapport vainqueur-vaincu, contraste des armes et de la nudité, triomphe sauvage sur des tendresses piétinées, force mal enchaînée des esclaves. Ces scènes, pendant plus d'un siècle, ont fonctionné comme autant de points d'érotisation de l'histoire. Là s'est formé un amour de la patrie qui n'avait rien d'abstrait. Et Foucault de conclure, il paraît que les petits paysans autrefois apprenaient le plaisir en regardant la basse-cour copuler. Combien d'enfants des écoles et des villes en ont découvert de très étranges en lisant ces livres sous le signe hypocrite de la mère patrie. Cher Patrick, cette idée de point d'érotisation porte à regarder autrement celles et ceux qui s'excitent à distribuer les bons et les mauvais points selon que tel ou tel ouvrage respecte plus ou moins l'imagerie reçue du roman national. Mais le plus émoustillant ici, c'est peut-être la façon dont Michel Foucault dit rêver d'un livre à faire. Livre qu'il n'écrira jamais, mais dont il se contente, comme si souvent chez lui, d'esquisser la silhouette, comme on laisserait courir sa plume dans la marge d'un texte pour y tracer en rêvassant les courbes de son attirance. C'est une autre façon de fantasmer l'histoire. Non pas reluquer ces images pieuses, mais caresser ces... Comment disiez-vous, Patrick, dans Ce que peut l'histoire ? Ah oui, ces futurs non advenus, ces potentialités inabouties. Vous êtes un sacré coquin, quand même.
France Culture. Allons-y voir. Patrick Boucheron.
Cette émission a totalement vrillé, en fait. On parlait de roman national et puis ensuite d'enfance, d'enfance bien peu enfantine. Et j'ai l'impression, la mauvaise impression, hein, qu'avec l'arrivée de Manuel Charpie, ça va pas s'arranger. Vous allez nous parler de Playmobil.
Oui, ah, mais vous allez voir. Je voulais vous parler d'une manière plastique de figurer l'histoire, celle d'adultes passionnés de jouer qui, à travers toute la France, exposent régulièrement d'immenses scènes historiques. Reconstitué à l'aide de Playmobil, effectivement. Playmobil qu'il bricole et qu'il place dans des décors. Et ces réunions, je vous le signale au passage, attirent des milliers de visiteuses et de visiteurs. Je me suis rendu il y a quelques années dans une de ces expositions.
Quelle vie passionnante vous avez quand même.
Je ne me refuse rien. Qui regroupait plus d'une vingtaine d'exposants dans un gymnase de la petite ville de Louvres, ça ne s'invente pas, dans le Val d'Oise.
Et alors, que voit-on ? Que voit-on ?
On y voit très souvent des reconstitutions historiques et à Louvre, sur d'immenses tables, on trouvait dans l'ordre une bataille de la guerre de Sécession, une bataille de la guerre de Cent Ans, la défaite française de Verneuil, une scène de western 1880, le tour du monde de Phileas Fogg, une scène urbaine belle époque, le New York de la Prohibition et enfin de l'histoire contemporaine, les funérailles de Johnny Hallyday et des manifestations pour et contre le mariage pour tous. Il y a quelque chose d'assez plaisant, je dois dire, à voir ces scènes où des moments politiques violents sont figurés avec des petits bonhommes raides en plastique, affichant un sourire béat, voire bonnet.
On peut tout faire. Alors, quelle lecture de l'histoire on peut faire de ces...
C'est une lecture de l'histoire qui... est plutôt une manière de s'approprier l'histoire, j'ai l'impression. Toutes et tous se disent passionnés d'histoire, souvent d'histoire bataille, puisque le plaisir est quand même de créer des scènes. Il et elle se documentent sur les lieux, les protagonistes, les vêtements, puis fabriquent ces petites figurines, parfois des milliers. Et c'est souvent une histoire très française, souvent locale, parfois marquée par le cinéma. Et on trouve aussi très souvent des batailles de la Première et de la Seconde Guerre mondiale.
Est-ce que c'est nouveau ?
Pas vraiment. En fait, depuis l'invention des soldats de plomb au XVIIIe siècle, enfin leur diffusion pré-industrielle et industrielle, on a ces reconstitutions de batailles, donc avec des petits soldats fabriqués en Bavière, puisque Paris avait le monopole du jouet d'actualité. Mais ce qui est nouveau dans les années 1980, à partir des années 1980, c'est de transformer des produits industriels standardisés en plastique et de les détourner pour les plonger, en quelque sorte, dans le bain de l'histoire.
Oui, parce qu'il y a des figurines historiques aussi chez Playmobil.
Oui, absolument. Dès le début de la création du lancement des Playmobil, en 1974, on avait un ouvrier, mais on avait aussi un Apache du 19e siècle, et puis un chevalier, et très vite, on a eu des cow-boys, Vous devez vous en souvenir les unes et les autres. Voilà, je vois son regard. Ouais. Et puis des nordistes de la guerre de sécession. Mais il y a en même temps, chez Playmobil, une peur de l'histoire très forte. Et le changement du slogan est parlant. Le premier slogan était « Playmobil en route, on va chercher l'histoire ». Et c'est devenu « En avant les histoires ». Vous voyez le glissement. Et la prudence va assez loin, puisque les boîtes histoire, history, créées il y a peu, n'évoquent que l'Antiquité et le Moyen-Âge. Il n'y a évidemment pas d'histoire coloniale, il n'y a pas d'histoire des guerres européennes contemporaines qui sont pourtant omniprésentes dans les reconstitutions que j'évoquais.
Oui, Playmobil, il y a une peur de l'histoire chez Playmobil. Je pense qu'on retiendra cette formule, Manuel Charpie. Et comment, d'ailleurs, l'entreprise voit-elle ces reconstitutions ?
Alors, elle voit, vous allez le voir, très très mal ces reconstitutions, d'un très mauvais œil. Ils sont très inquiets. Bon, il faut dire que la firme a été créée à quelques pas de Nuremberg et ça crée sans doute quand même une sensibilité. Et l'entreprise est très désireuse de contrôler ces reconstitutions historiques. Et ils poursuivent, il y a de nombreux procès, les vendeurs de ces Playmobil customisés, même si vous pouvez très facilement sur Internet trouver des Playmobil Wehrmacht, GI en Afghanistan, soldats français au Mali, etc. Il n'empêche, ils ont des procès. Et Playmobil a précisé récemment, dans une charte assez menaçante, vous allez le voir, clairement écrite par des juristes, je cite... Compte tenu de demandes de plus en plus fréquentes d'utilisation de figurines Playmobil modifiées, nous avons défini nos orientations dans ce domaine. Nous souhaitons que les Playmobil restent un support non violent d'imagination pour les enfants. Nous ne voulons pas que des images de figurines modifiées soient diffusées sur Internet, dans la presse ou à la télévision pour tout contenu discriminatoire, communication utilisée dans un cadre politique, contenu non adapté pour les enfants, entre parenthèses sexe, contenu extrémiste de toute nature, et enfin, contenu agressif, violent ou en rapport avec les guerres récentes, et notamment la Première et la Seconde Guerre mondiale. Nous refuserons toute demande d'autorisation d'utilisation de figurines modifiées en rapport avec ces sujets, et ils engagent effectivement des procès. Autrement dit, fin de la récréation.
Non, vous ne pouvez pas dire ça, on a encore quelques minutes. Vous êtes un spécialiste d'ailleurs de la récréation en tant que historien de l'éducation, Olivier Loub. C'est vrai qu'elles en ont pris pour leur grade, hein, ces images d'enfance depuis une heure, érotisées, violentes.
Moi, je retiens le plaisir, et le plaisir double. Ouais. C'est-à-dire le plaisir de lire ces images quand on les découvre et le plaisir aussi de voir leur rémanence. Par exemple, non-violence. Les Playmobil, qui sont un idéal de coiffeur pour ce qui est de l'histoire, hein, sont des figurines qui, on voit bien, souci de qu'elles soient pas violentes. Or, dans les années 30, les petits Lavis sont pris dans une réécriture par l'image y compris d'un texte qui ne doit plus être guerrier. Et pour ça, les scènes dont je parlais tout à l'heure d'initiation des enfants sont modifiées. Et c'est ainsi que nos petits-enfants gaulois qui jouent comme des sauvages, ça devient des enfants qui jouent à cueillir du gui et le meilleur. Pour la fin, Napoléon, d'abord les enfants jouent à Napoléon et glorieux, et puis alors, comment voulez-vous qu'un enfant s'imagine là-dedans ? Les enfants jouent à Napoléon à Sainte-Hélène.
C'est pas possible.
Si, c'est dessiné, voilà, il y a l'image.
C'était Allons-y voir, évidemment, Michel Polnareff, Lettres à France. Merci à vous quatre, Margot Renard, Adrien Genoudet, Olivier Loub et Manuel Charpie. Les références de vos livres, de vos parutions sont à retrouver sur la page de notre émission. Une émission préparée par Anouk Minaudier, à l'équipe technique Benjamin Troncin, Alexandre James, Hervé Rio, Patrick Beaulieu, Franck Malabry et à la réalisation Laurence Millet. Merci à vous toutes et tous. Life.
fond de moi, tu vis toujours au bord de l'eau. Quelquefois dans les journaux, je te vois sur des photos, et moi, loin de toi, je vis dans une boîte de musique électrique et fantastique. Je vis en chimérique. La différence. Thank you.